Alors, bonjour, je suis Bon Bettner avec la LAC et je donne la bienvenue à ceux qui ont pu se réunir avec nous. Je vais parler très doucement et lentement parce qu'une des raisons pour laquelle nous avons cette session de briefing, c'est parce qu'on a pu obtenir des traductions du RAAA en français et en espagnol. Vous aviez tous été notifiés de cela. J'ai aussi écrit tout ce que je vais dire pour surtout les traducteurs et ce qui va être dit aujourd'hui en question des notations pour que ça puisse être affiché et traduit si nécessaire. En question de ces documents sont affichés. Je ne suis pas dans une connexion de W, donc si vous avez une question de W Connect, je vais devoir vous recommander à que vous parlez avec Nick Ashenkart. Je suis tout simplement branché à l'Internet régulier. Et je vous dirai donc les questions qui sont affichées. Alors, ce que nous allons faire en ce moment, je donnerai une introduction bref, et puis Tim Cole, qui fait partie, qui est le président des bureaux d'enregistrement de l'ICANN, attendra donc une introduction et puis nous reviendrons en question à des discussions, en question des soucis liés à la RAA et puis je vous donnerai l'opportunité de poser des questions. Et encore, le briefing d'aujourd'hui représente l'opportunité d'aller à l'ALAC et d'autres représentants de la communauté dans leur langue maternelle, de comprendre les changements proposés à l'accord d'accréditation. Ça fait plus de 7 ans de l'existence de cet accord. Nous n'aurons pas beaucoup d'opportunités d'avoir encore des changements, donc cette briefing est aussi importante car ça fait plus d'une année que je travaille dans des sujets liés à des consommateurs. Car les sujets les plus importants en question de la communauté des consommateurs doivent avoir avec surtout les conformités de ces accords en question de la communauté d'art large pour que ça puisse être considéré. C'est magnifique que Tim Cole puisse se joindre avec nous pour parler de cela parce que ça fait plus d'une année que la LAC a fait des commentaires après la réunion d'ALAC à 100 juin, mais il faut faire encore un commentaire officiel en question des amendements. Et donc, c'est surtout le sujet principal de ce que nous parlerons aujourd'hui après que Tim termine. Je souleverai donc des inquiétudes. Nous avons donc une période de 2 semaines où tous les membres d'ALAC auront l'opportunité de faire des commentaires, à faire la fin de la période de consultation. Nous avons encore un temps, puisqu'il y a du temps pour les traductions, juste avant la conférence de Paris. Donc, le personnel de ICANN et Tim devront donc faire un rapport au conseil d'administration au moins au début du mois de septembre. Donc, tous les commentaires qu'on devra faire vont être soumis vers la fin du mois d'août. Et donc, c'est quelque chose que je présenterai. Alors, Tim, si tu peux nous parler maintenant des 4 domaines des amendements, s'il te plaît, et après nous parler des réactions de la communauté pour que la LAC puisse considérer sa réponse et ses commentaires pendant la période de consultation en question des amendements. Alors, Tim Cole. Oui, merci beau. Alors, je voulais faire en face à sur le fait que tout ce processus a été conçu surtout pour consultation. Nous avons eu plusieurs ateliers dans ces dernières années à plusieurs des conférences de l'ICANN. Je me suis réunie avec la LAC plusieurs fois durant cette période du temps. Les amendements que je vais décrire ci-dessus ne sont pas ou ne devraient pas être considérés des amendements qui sont proposés par l'ICANN, qui devront être acceptés par la communauté, mais c'est surtout des amendements qui sont ressortis de la période de la consultation en impliquant la constituance de propriété des plusieurs business et aussi la constituante et le collège des bureaux d'enregistrement et surtout faire en face. On essaye de trouver des points communs qui vont nous permettre de continuer avec l'introduction de plusieurs changements en question du contrat pour protéger aux registrants d'une manière plus forte de la manière que le contrat nous le permet, bien entendu. Parmi tous ces groupes avec qui nous avons eu des conversations, il n'y aura pas tous les éléments que tout le monde va trouver là-dedans, mais nous faisons tout le possible pour essayer de accentuer cette période de consultation. Alors, je vais vous expliquer donc ce qui est ressorti de ces discussions. Donc, nous avons 15 changements à proposer au contrat actuel. Le contrat actuel a été donc renforcé depuis l'année 2001. Il y a donc 4 catégories. Je vais donc mentionner les 4 catégories et les changements qui tombent dans chacune pour que nous savons comment commencer cette consultation aujourd'hui. Alors, la première consultation, c'est ce qu'on appelle outils d'application, et la première partie, c'est donc une provision, une disposition d'audit. La proposition du contrat permettrait donc à l'ICANN d'avoir des audits des bureaux d'enregistrement et aussi des visites des sites en donnant 15 jours en avance. Et donc, ça fortifierait donc la position d'ICANN de conduire des visites de sites. Alors, deuxième catégorie, c'est donc sanctions et suspensions. Et c'est surtout quelque chose que beaucoup des personnes ont recommandé, ont demandé pendant les périodes de consultation. Et donc, des sanctions qui ne permettent surtout prendre des pas lorsqu'il y a un bureau d'enregistrement qui ne respecte pas les conformités et la suspension des contrats. Et entre ça, il y a, par exemple, des conséquences financières qui peuvent être imposées sur le bureau d'enregistrement si le contrat est constamment violé. Et autre disposition que je pense aussi qui est très forte, et aussi, c'est l'habilité de suspendre l'accès si vous voulez, l'habilité d'ajouter des nouveaux enregistrements. Et notre but, surtout en question de ça, c'est de se rassurer. Dont le registrant ne sera pas dommagé, mais disons que ça va bénéficier le registrant. Et puis, il y a aussi responsabilité de groupe. Et cela, surtout, traite le concept qui a donc des propriétés en commun parmi plusieurs des bureaux d'enregistrement. Et l'idée ici serait surtout de se rassurer qu'un bureau d'enregistrement ne peut pas, disons, faire des fautes avec l'accès d'un autre bureau d'enregistrement et pas être puni, disons, ou avoir des conséquences. Il y en a aussi une disposition en question des frais, et ça fait deux choses. Ça enlève les frais qu'on n'a pas chargés depuis des années. C'est donc le frais du TOLD sur le frais annuel. Mais à part de ça, nous avons ajouté un frais, disons un intérêt. Donc les bureaux d'enregistrement qui n'ont pas payé à l'heure devront payer plus d'argent à cause de ces paiements en retard. Et autre chose aussi, en question des problèmes des bureaux d'enregistrement, c'est qu'ils ne payent pas leurs factures à temps. Et donc, c'est une manière de prendre action lorsqu'un bureau d'enregistrement ne peut pas payer sa facture. Et ça va créer donc plus de justice pour que de cette manière-là, les bureaux d'enregistrement ne perd pas cet avantage. Nous avons aussi une disposition qui traite l'enregistrement des bureaux d'enregistrement, et cela veut dire les bureaux d'enregistrement qui font l'enregistrement avec le but disons, d'enregistrer le nom de leur propre société, seront responsables avec l'ICANN avec n'importe quelle violation du contrat, et pas seulement bio d'enregistrement. Et c'est une disposition qui aide surtout traiter à un sujet qui a été un peu ambigu jusqu'à maintenant. C'est les bureaux d'enregistrement qui enregistrent leur propre nom sans avoir un accord spécifique d'enregistrement. Et finalement, sous cette catégorie, il y a donc un délai d'arbitrage dans le contrat actuel. S'il y a un bureau d'enregistrement est menacé avec suspension de la partie d'ICANN, ils peuvent automatiquement demander un délai de 30 jours et rester encore active. Et donc, c'est 30 jours où ils peuvent avertir leur client. Donc, c'est 30 jours de terme additionnel. Donc, nous avons éliminé cette disposition. Ils peuvent encore appliquer pour un délai. Et si l'arbitre détermine que c'est pour l'intérêt de la communauté qu'il continue donc active, ou s'il y a un bureau d'enregistrement doit prendre conscience de cela, c'est l'arbitre qui prendra cette décision. Alors, deuxième catégorie, c'est protection des registrants. Mais bon, tous ces changements, d'une manière ou d'une autre, aident à protéger les registrants. Le premier doit avoir avec enregistrement, exigence de l'enregistrement privé et des dépôts des données. Et donc, cela exige que les bureaux d'enregistrement participent dans le programme de déposer des données et surtout les données sous-jacentes des services soit privés ou de proxy qu'ils offrent à leurs clients. Alors, ça exige que c'est une disposition qu'ils avertissent surtout les clients en avance que leurs données ne sera pas déposées. Et donc, c'est surtout une partie d'éducation pour le consommateur. Autre domaine qui vient d'une proposition de HALAC, surtout un document de droit et de responsabilité des registrants, en correspondance avec la communauté d'ICANN, et ce document donc serait donc affiché à tous les registrants, les bureaux d'enregistrement, pardon, et serait donc un outil d'éducation à expliquer aux bureaux d'enregistrement les droits qu'ils ont en question des bureaux d'enregistrement, les enregistrements, et donc ça mentionnera surtout les responsabilités. Donc, HALAC sera très impliqué en question de la période de consultation pour la création de ce document. Aussi, sous protection des bureaux d'enregistrement, nous avons pour la première fois identification des contrats des bureaux d'enregistrement avec les revendeurs et en plaçant plusieurs exigences qui, soulèvent les obligations des revendeurs avec les politiques actuelles sous les contrats de la RAA. Ensuite, la troisième catégorie doit avoir avec promotion du marché de manière compétitive. Et ici, donc, nous adressons l'idée d'accréditation par achat. Une majorité des bureaux d'enregistrement se sont convertis en bureau d'enregistrement, pas par passant par le procès d'application de ICANN. Donc, ce que ça veut dire, ils n'ont pas été interrogés par l'ICANN, par un procès d'application, mais ils ont tout simplement acheté un bureau d'enregistrement existant. Donc, ce procès leur exigerait d'avertir à l'ICANN et fournir à l'ICANN avec toute l'information en question des membres intéressés de leur société et qu'ils vont se conformer avec les règlements de la RAA. Et c'est une manière de se rassurer que les changements de propriété doivent encore passer par un procès de révision. Ensuite, en traitement des opérateurs, et c'est quelque chose qui est venu aussi de la communauté, mais c'est encore une exigence que tous les bureaux d'enregistrement, qu'au moins une personne de leur personnel passe par l'entraînement efficace et donc sera affiché en ligne et sera donc aussi noté par l'ICANN pour se rassurer que au moins un membre a passé par cela. Et aussi la politique générale de l'ICANN en question d'utiliser surtout des bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN et l'emphase ici, et surtout que si les bureaux d'enregistrement sont demandés de se conformer avec les dispositions de la RAA, il devrait être l'identité principale avec qui le bureau d'enregistrement a fait ses accords. Et donc, la dernière catégorie, c'est donc modernisation de l'accord, et c'est des dispositions qui, disons, essayent d'actualiser le contrat de l'année 2001 avec les normes de l'ICANN d'aujourd'hui. Avec cela, nous avons donc ajouté une disposition sur l'avertissement qui permet à l'ICANN de donner des avertissements électroniquement avec le contrat actuel. Il faut donner de l'avertissement d'une manière physique, disons. Donc, vous imaginez, lorsqu'il y a, maintenant que nous avons 900 bureaux d'enregistrement, il faut pouvoir se communiquer avec eux en question de changement de politique de manière électronique en ce moment. Aussi, il y en a aussi quelques références avec le département de commerce, passé par le GPA, et surtout, nous avons enlevé ces références dans la partie du contrat d'enregistrement, et ce serait la même chose avec le RA. Et finalement, il y en a dans les conditions actuelles en question de combien de temps est-ce que les bureaux d'enregistrement doivent maintenir les données de leurs transactions avec leurs clients. Il y a une disposition qui mentionne combien de temps est-ce que ces données doivent être gardées. Et donc, c'est, si vous voulez, un résumé des 15 changements qui ont été proposés et qui sont maintenant en période de consultation. Je vous donne la parole pour la prochaine partie. OK, d'accord. Bon, merci beaucoup, Tim. J'apprécie cela. Et puis, une des présentations que nous avons marquées avec ça, c'est pour que tout le monde puisse lire en détail ces documents. Et je voulais donc maintenant prendre cette opportunité pour, en question des soucis des utilisateurs de la communauté. Ça me prendra à peu près 10 minutes. Alors, je vais commencer avec quelques inquiétudes que moi, j'en ai. Bon, j'apprécie qu'il y a donc un vise surtout sur la conformité sur des contrats, mais en question de la communauté. Il y en a donc des inquiétudes en question du langage, surtout de conformité, et donc c'est de la communauté de s'occuper pour essayer de, disons, par exemple, vente de produits de pharmacie, des actions contre cette personne, et ça revient au même bureau d'enregistrement et de commencer à faire la même chose sans aucune sanction ou sans aucune action. Et ici, c'est un commentaire que Danny Younger a proposé dans un de ses documents avec 1000 bureaux d'enregistrement avec une politique de 3 fautes et vous êtes suspendu. Donc, une violation importante du contrat devrait être suffisante pour donc un bureau d'enregistrement doit jouer par les règles ou sinon être viré de l'équipe. Et c'est quelque chose que Dani a bien résumé. Alors, sous 2C, si vous revenez donc aux détails que je viens de mentionner, j'en ai quelques questions, et aussi la communauté aussi avait quelques questions de pourquoi nous créons une disposition. Et encore du changement proposé donner, disons, avertissement que les données ne seront pas déposées. C'est une question. Il y a une question de pourquoi il devrait y avoir une situation où les données ne devraient pas être déposées par le bureau d'enregistrement. Et puis, je voulais donc mentionner quelques sujets en question de comportement de bureau d'enregistrement, non seulement que j'ai entendu, mais vu aussi dans le document de Dani. Il y a une lettre envoyée à l'ICANN venant de l'OSCDA en critiquant l'accord d'accréditation de bureau d'enregistrement. Il y a 22 incidents de mauvaise conformité, de ne pas avoir fourni l'information efficace, décision DRP et puis manière inappropriée en question d'élimination des noms de domaine, l'apostrophating. Et le but de tout cela, c'est que la majorité de ces acteurs peuvent s'engager dans des activités criminelles et puis revenir à faire la même chose. Et donc, on voudrait donc entendre quelques opinions en question si ICANN planifie de renforcer, parce qu'il y a surtout une différence entre ce qui est écrit et ce qui est vraiment, surtout renforcer. Et encore, de la présentation de Dani, si vous avez eu l'opportunité de lire ça, et c'est quelque chose que nous voyons dans les amendements de la AAA, en question des frais ou des tarifs, en question des violations, lorsqu'un bureau d'enregistrement se comporte de mauvaise manière, et donc l'ICANN, soit qu'il commence vraiment à punir ou à continuer à permettre que ces bureaux d'enregistrement se comportent de manière mauvaise. Avant de, disons, d'aller à la conclusion pour comment formuler des réactions, je voulais donc demander à l'opinion de Tim en question des présentations du département de commerce il y a quelques semaines. C'était des présentations très courtes. J'encourage que tout le monde lise cet affichage. Tim, tu pourrais donner plus de détails en question des commentaires du département de commerce. Bon, c'est un peu inconfortable que tu me demandes que je résume leur présentation. Je préfère que les gens lisent cela pour qu'ils forment leur propre opinion, parce que sinon, ça va être un mode de caractériser. Ça pourrait être interprété comme l'interprétation d'ICANN de leurs commentaires. Et bon, peut-être, je préfère que quelqu'un dans ton groupe fasse ce résumé, parce que c'est pas une présentation de la part de ICANN, mais bon, c'est quelque chose que nous considérons et nous répondons directement en question de cela. Et ça fait partie des commentaires publics surtout, mais ça traite surtout les inquiétudes du public en question des services de privacité et de pratique. Bon, je vais envoyer quelque chose à la LAC en question de cela, car autre chose dans laquelle je suis impliquée en ce moment, c'est l'hypothèse du groupe de travail de KIE. Et ça doit avoir avec ça, mais aussi des opinions en question de qui est présent, par exemple. Et il faut s'impliquer dans cette conversation. Et bon, avant d'ouvrir le forum à des questions, des commentaires, en question de réaction, je pense que d'après ce que j'ai entendu du personnel, quoi qu'on choisisse de présenter en question de commentaires des amendements, devrait être écrit et coordonné. Et si les gens veulent envoyer leurs commentaires et donc organiser une réponse coordonnée, je patrocinerai à mettre cet ensemble. Et si vous voulez envoyer tout cela à Tim pour qu'il puisse les avoir. Je vous rappelle qu'on est déjà en retard dans le processus. Donc, on pourrait avoir plus d'effet si, disons, on rédige les choses d'une manière plus positive, ce qu'on pense qui est plus positif, qui devrait être inclus, au lieu de dire que quelque chose n'est pas acceptable, car déjà, le processus est déjà bien avancé, et des commentaires de ce style ne sont pas très bien reçus. Donc, nous aurons besoin de vos opinions jusqu'à la fin de ce mois. Donc, vous avez 2 semaines. Nous avons 2 semaines, surtout pour travailler en question sur les opinions d'ALAC, en question des amendements proposés de la RA. Alors maintenant, nous allons ouvrir le format des questions ou des observations ou quelque chose que n'importe qui veuille dire maintenant que nous avons Tim avec nous. Vous avez des questions, Boss et Dani. Donc j'ai une question de processus. Après, la dernière étape de commentaire, quel sera le prochain pas dans le processus de la partie du personnel? Alors, Tim et moi, nous avons parlé en question de ça, en question de la préparation. Tim, tu veux répondre à cette question? Bon, le processus aujourd'hui a été surtout... ce cycle a été surtout mené par une résolution de la partie du conseil qui nous a dirigé à développer en consultation avec la communauté et les bureaux d'enregistrement un ensemble d'amendements que nous avons faits. Et donc le prochain pas du conseil de résolution est de solliciter le commentaire public et puis il faudra créer un rapport pour le conseil conscient de ça. Donc, le prochain pas à ce moment-là, c'est de créer le rapport au conseil de cette période de consultation. Après cela, le conseil d'administration prendra cette information et déterminera ce qu'ils vont faire en question des prochains pas. Je ne peux pas préjuger ce qu'ils vont faire. Ils pourraient bien dire plusieurs choses. Soit proposer une approbation de tout ou presque tous les amendements ou dire qu'il y a plus de besoin de dialogue. Je ne sais pas, je ne peux pas anticiper ce qu'ils vont dire, mais maintenant, ce sera la décision du Conseil en question des prochains pas. Et je voudrais donc répéter, au risque de vous ennuyer, mais ALAC a un tout petit peu plus de temps pour faire des commentaires. Il y en a du temps extra qui a été donné à l'ALAC par la communauté, car on a été en retard en question de la traduction des documents en français et en espagnol. Ceux qui font partie des communiqués en français et en espagnol de l'ALAC en question des mauvaises traductions des documents, ils ont déjà été traduits. Donc, si vous voulez faire des commentaires ou faire des observations en question de la RAA, c'est le moment de le faire. D'autres questions ou des sujets présentés? Il faut dire, il y en a 5 personnes dans la chaîne en espagnol. Je viens de demander à l'opérateur s'il y a ils ont quelques questions ou des commentaires. Je pourrais demander clarification de Nick en question spécifiquement ce qu'ils ont traduit, ce qu'ils n'ont pas traduit, parce que le RAA a été traduit, tout le monde a été informé de cela, mais les amendements proposés ne sont pas encore été traduits, c'est cela? Bon, l'avertissement, les amendements et le résumé en arabe des amendements ont déjà été traduits. Et aussi, les préliminaires de la RA, ça serait donc la première version officielle d'une traduction de la partie d'ICANN avec le but, on ne pourrait pas signer, un accord en français ou en espagnol avec l'ICANN et un bureau d'enregistrement sans soit bien compris, mais il y aura aussi des additions. Je voulais donc savoir ou avec le groupe ERA à Papa, où est-ce que ça ira avec le travail supplémentaire, avec les accords du bureau d'enregistrement, et pourquoi est-ce que ça n'a pas été inclus, pourquoi est-ce que c'est, ça n'a pas été dans un premier groupe? Première chose, c'est parce que je voudrais bien comprendre. Je ne sais pas. Je suis en train de travailler avec ce groupe de travail. Mais aussi, il y a très peu de temps qui est donné pour donner des commentaires en question des groupes de travail. Et donc, je voudrais savoir si la LAC est en train de faire quelque chose en question de ça. Et donc, peut-être ça serait mieux d'avoir du temps parallèle pour pouvoir discuter les autres modifications de l'accord d'enregistrement. Moi, je ne sais pas, Tim, est-ce que tu pourrais répondre à cette question? Sébastien, si j'ai compris à ta question doit avoir avec les politiques de transparence du travail, oui. Oui, vous avez raison. Et donc, la politique de transférence entre bureaux d'enregistrement, surtout. Parce que... Oui, et je m'excuse parce que... Alors, je ne suis pas une personne principale du personnel en question de ce projet, donc peut-être qu'il y ait d'autres personnes impliquées dans cette conférence qui ont plus de connaissances en question de cela, et d'après ce que je comprends, ce groupe de travail n'est pas surtout chargé de voir les fonctionnements de la RAA, mais surtout la politique du consensus et si cette politique a besoin de clarification ou de mise en jour, mais en question de consultation, en question de ça, je ne suis pas très au courant parce que ce n'est pas, disons, sujet principal. Et je comprends ça. Je sais que vous n'êtes pas très impliqué avec ce groupe de travail, mais si vous n'avez pas la réponse en ce moment, peut-être les personnes du personnel qui pourraient donc me donner plus de clarification. Parce que bon, je suis certain que quelqu'un a déjà essayé de voir ça, mais ça serait meilleur pour moi d'essayer de comprendre ça. Et j'ai un commentaire. Et en ce moment, avec le GNSO, il y en a 6 processus de développement de politique en question de transférence, de bureau d'enregistrement. Ils sont dans plusieurs des étapes. Et donc, il y a beaucoup de travail qui se passe en ce moment. Question de ça, je pense que le problème, surtout, ça a été divisé dans 6 domaines. Et un est déjà terminé, l'autre est en train de commencer. Et puis, bon, les autres sont faits en séquence. Donc, je peux vous signaler à des documents. Question de ça, on aura plusieurs opportunités de pouvoir travailler avec ces groupes. Et je voudrais donc ajouter à ça, en question des nouveaux sujets qui ont été identifiés, ce groupe de travail, et Sébastien, je peux te répondre à beaucoup de questions que vous pouvez avoir, parce que vous faites partie du groupe de travail, n'est-ce pas? Alors, si vous avez encore des questions, on peut parler en question de ça, en dehors de la conférence. Et la seule raison pour laquelle j'ai commencé à participer dans cette conversation, c'est important de dire au groupe de la LAC et à large, c'est que nous devons avoir, nous avons pas beaucoup de temps en question du temps de consultation, et donc c'était un sujet en dehors du sujet principal. Donc je m'excuse en question de ça. Alors, quelque chose d'autre en question des amendements et des accords? Beau, c'est Dani. C'est une question pour Tim Cole. Nous avons parlé en question des des familiers des bureaux d'enregistrement. Alors, mon souci, lorsqu'on avance avec le cycle du GNDO, qu'on puisse pas voir ces familiers des bureaux d'enregistrement en participation avec ces cycles. Il y en a des dispositions avec les dispositions actuelles de la RAA qui traiteraient avec la possibilité de cela. Je ne suis pas, lorsque vous parlez de gaming, je ne sais pas de quoi vous parlez. Parlez-vous en question, pourriez-vous peut-être me clarifier ce que vous voulez dire en question de votre question? Bon, disons, je suis un consommateur moyen, je vais à un bureau d'enregistrement et qui a donc juste une opportunité et j'ai l'intérêt d'acquérir un nom en particulier. Si j'avais su qu'un autre bureau d'enregistrement avait donc 112 opportunités à ce nom en particulier, j'aurais allé à ce bureau d'enregistrement. Mais à ce moment, les familles semblent avoir des avantages sur des individus lorsque ça doit avoir avec l'acquisition de noms pour leurs clients. Alors, est-ce que j'ai tort? Alors, en question que quelqu'un peut coordonner accès à les bureaux d'enregistrement en coordonné en question de l'accès au nom de domaine, mais en même temps, le Land Rush où l'accès est gouverné par les politiques de bureaux d'enregistrement et les contrats, surtout, des bureaux d'enregistrement qui gouvernent leurs actions. Mais l'accès au nom de domaine devra avoir une structure de politique développée par ce bureau d'enregistrement. Et chaque bureau d'enregistrement a plusieurs modèles. Donc, c'est difficile pour moi de vous dire comment est-ce que ces bureaux d'enregistrement vont structurer leur accès à leur nom de domaine. Mais pour être honnête avec vous, je soupçonne que qui est comme un marché de compétition, tous ces facteurs entrent en jeu. Je ne sais pas où exactement une violation du contrat peut être considérée ou quoi peut être défini comme violation du contrat. Où est-ce que ça tombe? Bon, merci. Alors, c'est beau, j'ai un commentaire moi-même. Je voulais donc dire ça au groupe. C'est vraiment magnifique de voir sous l'article de droit et responsabilité des bureaux d'enregistrement, en question des droits et responsabilités des bureaux d'enregistrement, mais demander et d'exiger de la création et consultation avec la communauté des CAN des droits et des responsabilités. C'est magnifique de voir cette partie-là dans ces amendements. C'est quelque chose sur laquelle on est en train de travailler en ce moment. Et nous sommes en train d'articuler des idées, mais n'importe qui veut contribuer à cela, on peut toujours utiliser votre contribution. Et puis, beau aussi, en question de référence, l'idée avait été proposée par Victoria Vidola, et donc je pense que ce serait correct de mentionner que c'est elle qui a eu cette idée, que celui qui a eu cette idée. Oui, et chère Alicia. Et nous avions eu l'appui de l'Europe. Et aussi, j'avais mentionné que surtout en question de comportement, il y en avait eu du travail de politique de plusieurs des pays. L'Australie, ça fait un des pays et donc ça a pris en conscience plusieurs aspects de ce qui veut dire en question de responsabilité et les droits des bureaux d'enregistrement. Et je peux vous envoyer les liens en question de ça et ça serait magnifique. J'ai l'impression que nous ne devons pas avoir terminer cela en question des déclarations d'Allah. Bon, si on pouvait les terminer, ça serait magnifique. Mais surtout de pouvoir montrer qu'on est en train de travailler sur cela, ça serait magnifique. Beau, et c'est Tim. Je voulais juste encore mentionner que si ces amendements sont autorisés et cette partie est incorporée, nous sommes en train de développer avec la communauté et surtout avec la LAC et d'autres, avec tout ce matériel. Donc, il y aura l'opportunité d'incorporer cela dans le procès. Ah oui, magnifique, magnifique. Tim, et c'est Cheryl qui vient de parler, c'est Cheryl qui parle. Et surtout, le sujet, donc, il faut être plus proactive, réactive lorsqu'il y a plusieurs choses qui se passent. Et surtout lorsque nous avons des réunions face à face, je veux dire, il faut plus de planification. Donc, c'est pas une question d'attendre, mais bon. Mais Dani, s'il te plaît, je voulais juste demander à Tim, je sais qu'à travers des années, la communauté des bureaux d'enregistrement a fait plusieurs essais en question de la création avec un document de code de comportement avec les bureaux d'enregistrement et à ces membres de la communauté qui ont des inquiétudes en question de cela, on voudrait voir un document créé. Donc, pourriez-vous nous donner quels sont les efforts faits par le personnel de ce moment pour créer ce type de document? Bon, Dani, en ce moment, le code, la disposition de code de comportement dans le contrat actuel indique que si le bureau d'enregistrement a un code de comportement, tout le monde devra être obligé de le suivre. Alors, cette partie n'est pas aperçue comme venant de l'ICANN, mais peut-être, tel comme vous venez de dire, qui vient surtout du bureau d'enregistrement, et c'est quelque chose que peut-être les clients des bureaux d'enregistrement peuvent insister pour l'obtenir. Et les bureaux d'enregistrement qui sont d'accord à un code de comportement, pour présenter cela aux clients en même temps, il y a donc une interaction d'amélioration entre le collège des bureaux d'enregistrement et la LAC. Et donc, je pense que ça fait quelque chose d'encourageant pour continuer. Et puis, une autre manière de traiter cela, c'est de présenter un code de comportement pour les bureaux d'enregistrement qui sont abonnés à ces services en particulier. Alors, en question d'une manière de traiter ça prochainement, ce serait de peut-être travailler avec les candidats surtout des bureaux d'enregistrement et pas nécessairement avec la communauté. Mais j'apprécie le commentaire. Et Dani aussi, votre question précédente en question l'accès au nom des domaines, ce code de comportement, c'est des éléments qui pourraient à faire des parties importantes en question de discussion avec des bureaux d'enregistrement actuels. Donc, ce n'est pas nécessairement en dehors de question. Et aussi, je voudrais dire que le collège d'enregistrement donc a présenté en question des inquiétudes de propriété intellectuelle et donc ça serait important pour que les LAC considèrent de travailler parce que c'est un très bon effort qu'ils ont fait en question de ce document de propriété intellectuelle. Alain, lorsque vous parliez en question, lorsque vous dites nous sommes en train de faire quelque chose, vous parlez de la LAC. Bon, peut-être ça serait difficile d'obtenir la coopération de la communauté des bureaux d'enregistrement, mais en même temps, il y en a plusieurs bureaux d'enregistrement qui sont disponibles à participer dans cela. Et si on pourrait obtenir des bureaux d'enregistrement importants à participer dans ce procès de manière officielle ou non officielle, ça donnerait donc plus de résultats pour que ce soit adopté. Et puis, c'est Beau qui parle. J'ai beaucoup d'expérience en question de développement de règlement de comportement et donc d'encourager la participation des bureaux d'enregistrement importants et d'obtenir surtout leur soutien pour ce procès et ça aide beaucoup avec le succès de tout cela. Alors, j'ai pris la responsabilité de rentrer en contact avec la communauté des bureaux d'enregistrement. Donc, si vous connaissez quelqu'un, je suis en train de parler avec Jonathan, comme disons, mais si vous connaissez des bureaux d'enregistrement qui seraient disponibles à participer dans cela, bon, moi, bien entendu, je pourrais vous donner des noms, et Dani aussi, mais ce que je voulais dire, surtout, travailler avec des bureaux d'enregistrement individuellement pour être plus productive au lieu d'essayer d'essayer de faire que tout le collège participe. Donc, je pense que c'est Bo qui parle encore. Je pense que la LAC a un rôle très important à jouer ici. Donc, si on pourrait peut-être obtenir la coopération des bureaux d'enregistrement pour créer donc une liste de comportements et donc pour encourager aux utilisateurs, des internautes avec des sociétés qui sont abonnées à ce code de comportement. Non, je suis en train de dire en question de rédiger pour essayer de solliciter, disons, l'appui de bureaux d'enregistrement qui seraient pour la création de ce code de comportement. Quelqu'un d'autre? Bien. Bon, j'avais donc, une dernière opinion et ça adresse la question de commentaire de la NDPA. Donc, je vous avais mentionné qu'on sentait que l'ICANN, si je ne m'en souviens pas incorrectement, que l'ICANN et le personnel nous a déjà indiqué qu'à partir des conversations avec le DOC en question de ce sujet, pourrait-on savoir où se trouvent les discussions en question de ce sujet-là. Je ne comprends pas très exactement quelle est votre question, mon cher encore. Alors, lorsque j'ai lu les commentaires de la DOC, ça indiquait que l'ICANN en question des obligations, des affirmations, des responsabilités en question de ce point-là, où se trouve, le département de commerce en question des discussions avec l'ICANN. Alors, notre département de conformité, bien entendu, est en train de faire des études avec les bureaux d'enregistrement. La GNSO a aussi des conversations en cours, surtout les études qu'ils peuvent demander en question de qui est présent, mais surtout notre position continue à être que nous allons demander des efforts de conformité accentués et nous essayons d'obtenir des ressources en question de cela. Alors, en question des services de proxy en particulier, en train de dire que l'existence de services de proxy et que vous permettez que ces services existent. Et ça vous met donc surtout en faute. Quelle est votre opinion en question de ça? Bon, écoutez, je n'ai pas une réponse en question de ça. Aujourd'hui, la lettre, elle est publique, et donc nous répondrons à ça publiquement en question d'organisation, mais je pense que la position d'ICANN, nous ne sommes pas en faute en ce moment et que nous sommes en train d'essayer d'accentuer conformité de ces dispositions. Dani, et une des choses en question de toute cette proposition des amendements, parce qu'en ce moment, le déposer des données demande au bureau d'enregistrement, demande le déposer des données du bureau d'enregistrement. Alors, si le bureau d'enregistrement et le service de proxy, c'est ça les données qu'ils ont exigées de déposer. Alors, malheureusement, si une moitié des clients sont en déposé ou sont en procès de proxy, la même information est en train d'être déposée, alors ces amendements ont été conçus surtout pour obtenir les données sous-jacentes, pour obtenir l'information qui n'est pas en train d'être déposée. Donc, si nous sommes, si cette disposition n'est pas autorisée, bon, alors à ce moment-là, moins de données seront déposées. Bien entendu, le but de l'ICANN, en question d'avancer cela, est de déposer plus d'informations. Ou si ce n'est pas déposé, c'est d'améliorer surtout les consommateurs en avance. Si un consommateur veut se renseigner ou veut faire une décision à un endroit qui n'est pas en train d'être déposé, ou si ce bureau d'enregistrement ne survit pas, pour au moins avoir un avertissement en avance pour essayer d'améliorer, disons, la valeur de déposer, pas de le minimiser. Je ne sais pas pourquoi vous avez fourni à la communauté du bureau d'enregistrement avec cette information. Tout simplement demander à tous les bureaux d'enregistrement de déposer leurs données. C'était quoi, disons, la pensée derrière cet raisonnement? On revient surtout à que le consommateur doit être informé. Alors, on a obtenu de la LAC des demandes pour d'informations additionnelles. C'est un marché, surtout, qui a une variété de manières de traiter les choses. Et donc, si on insiste sur une règle à 100%, disons, des offres présentées par les bureaux d'enregistrement, le seul résultat serait de, disons, créer une disposition à troisième personne où le bureau d'enregistrement ne serait pas impliqué. Alors, on n'aurait pas d'influence sur ça. Alors, c'est beau qui parle. Alors, donc, le langage de déposition des données, c'est de donner une meilleure divulgation des bureaux d'enregistrement lorsque il y a le procès d'enquête. Alors, si vous pouvez imaginer, il y en a plusieurs troisièmes personnes, plusieurs sociétés d'avocats qui sont listées comme le bureau, comme le registrant. Ça, c'est un service de proxy, par exemple. Pardon, c'est Joël qui parle. Alors, ça fait plusieurs heures qu'on a discuté de ce sujet. Et bon, lorsque nous parlons aux consommateurs, ils ne se rendent pas compte que c'est quelque chose qui on est en train de faire ça à nom d'une autre personne. Donc, il y en a plusieurs niveaux à faire cela. Et je pense qu'il faut voir ça, c'est Alain. Et bien entendu, surtout le sujet de revendeur ramène ce point de vue ramène cela du point de vue du consommateur très très obscur. Bon, moi j'ai l'impression en question qu'on s'occupe plus de la protection des modèles des bureaux d'enregistrement et pas les consommateurs. C'est mon opinion, bien entendu. Alors, je pense que vous n'êtes pas le seul qui a cette opinion, mais bon. Mais, surtout dans un contexte en cela, c'est Cheryl qui parle, nous travaillons très durement pour éduquer nos licenciés actuels de ce qui veut dire de quelle est la différence entre un revendeur et un bureau d'enregistrement et où leur habilité, parce que nous ne montrons pas, disons, qui sont les revendeurs. Il y en a des personnes qui appelle à demander c'est qui cette compagnie XY, parce qu'ils n'ont jamais traité avec ça. Donc, nous sommes en train de régler cela pour que ça montre aux consommateurs qui est ce bureau d'enregistrement, à qui est-ce que cette licence a été vendue, pour quelle période de temps. Et de pouvoir mentionner soit le nom du revendeur ou la société. Cela donne au moins aux consommateurs le conseil de comment est-ce que ce procès est tellement compliqué. C'est bien entendu, c'est pas quelque chose dans laquelle on ne peut pas toujours informer les consommateurs, parce que la majorité des consommateurs n'ont pas l'habilité de déchiffrer avec qui ils sont en train de traiter, je veux dire. Oui, bon... C'est pour qu'ils parlent encore, et c'est pour cela que cet amendement de divulgation est très important. Mais bon, le consommateur, comme que. Oui, mais les consommateurs veulent une réponse lorsqu'il y a un problème qui surgit, je veux dire. Bon, c'est Dani, et puis ma lecture des commentaires générales. Il y en a plusieurs de commentaires par plusieurs personnes impliquées et ça indique qu'ils ne sont pas très contents avec ces propositions d'amendement, parce qu'il y a plusieurs sujets qui n'ont pas été adressés. Est-ce que nous avons l'option de traiter cela, pas comme un ensemble d'amendements, mais peut-être un nouveau contrat d'être créé dans sa totalité pour le processus du GNSO, vu qu'on a créé des principes et des recommandations qui permettraient donc un nouveau contrat de GNLD. Et je voudrais demander à Tim s'il voit cela comme une des options possibles. Et y a-t-il une possibilité que le personnel serait d'accord à rédiger un nouveau contrat au lieu de simplement faire 15 amendements. Je veux dire, bon, Dani, c'est pas une question de la coopération du personnel. Le personnel soutiendra le GNSO de n'importe quelle manière où ils décideront de procéder en question de leur règlement et leur structure et leur statut, mais... Parce que... Pardon? Alors, un nouveau contrat, ça serait donc un choix... Une nouvelle politique de consensus, c'est un choix. Le GNSO n'a pas l'opportunité de créer un nouveau contrat, mais le contrat lui-même peut être, disons, changé par les politiques suivies par le GNSO. Et bon, bien entendu, le contrat est entre l'ICANN et les bureaux d'enregistrement, et le contrat, le bureau d'enregistrement et l'enregistrement a des dispositions de politique qui demande à suivre ce processus. Et donc, ça serait la manière de le traiter, je veux dire. Mais je ne comprends pas pourquoi. Je sais que sous les règlements du contrat, ICANN peut introduire un accord en remplaçant le précédent si c'est autorisé selon le processus de politique. Je voulais savoir s'il y avait une possibilité en question de peut-être formuler un nouveau contrat, parce qu'en ce moment, je vois qu'il y a donc une négociation privée entre les bureaux d'enregistrement et le personnel. Un des problèmes, Dani, c'est que le bureau d'enregistrement était en dehors, surtout du département juridique de l'ICANN, et donc c'est plus difficile. C'est surtout quelque chose du contrat. Surtout, les seuils sont plus difficiles, je veux dire. Bon, je ne sais pas comment... J'ai pas la connaissance de l'ICANN interne pour faire des commentaires en question de cela, mais... mais j'ai l'impression, et Dani, certaines choses en question des commentaires des utilisateurs qui n'ont pas été mentionnées ici dans les amendes, dans les amendements, surtout en question de comment traiter certaines données et de devoir comment traiter plusieurs des inquiétudes des utilisateurs. Alors, moi, mon impression, je veux dire, c'est que bien entendu, on est bien d'accord que c'est pas surtout le contrat final de la RAA, mais un ensemble d'éléments où on pourrait, disons, arriver à un accord dans une période de temps acceptable et puis commencer à travailler sur les éléments qu'on n'a pas encore traités, je veux dire, et ces teams. Et je ne veux pas... Bon, je vous ai donné mon point de vue, mais tout ça pour dire que nous avons l'expérience en question. On a passé beaucoup d'énergie et nous avons les preuves pour montrer qu'on a travaillé très durement sur cela. Et surtout avec la RAA, on a essayé de créer un processus en tenant compte l'opinion de la communauté et surtout un contrat. Alors, en même temps, je sais que la position de Dani est qu'on ne devrait pas accepter que cette version comme la première version et puis attendre plus de choses. Mais il y en a plusieurs choses ici qui vont traiter à la protection des bureaux d'enregistrement et si cet amendement est autorisé ou pas, ce qu'on veut faire, est-ce que nous voulons vraiment... attendre à quelqu'un de ses propositions ou essayer d'obtenir d'autres propositions dirigées par le conseil d'administration. Mais, par exemple, le sujet de warehousing est identifié dans le contrat actuel. Si la politique de warehousing est adoptée, tous les bureaux d'enregistrement doivent la respecter. Donc, si la communauté voudrait donc à avoir une discussion de politique de warehousing, ils ont toujours eu cette opportunité de le faire. Et rien n'empêcherait de le faire en ce moment. Donc, c'est des idées que je vous donne en question de ça. Et c'est Dani qui parle en ce moment. Surtout en question de la période de rédemption d'attente. On avait dit que, par exemple, on allait présenter quelque chose et puis on allait donner la période de rédemption à une deuxième étape où, finalement, on pourrait choisir, disons, le bureau d'enregistrement. L'expérience nous a montré que on pouvait jamais arriver à cette deuxième étape. Et donc, moi, je crains que ces 15 amendes ne couvrent pas, disons, plusieurs des inquiétudes des membres et puis qu'on soit coincé avec ça. C'est pour cela que, alors, quelle est votre proposition, question de limite de temps? Bon, disons, des fois, il faudra prendre plus de temps. Je sais que c'est de la manière dans laquelle on travaille ici, mais bon. Alors, Dani, ce que vous êtes en train de dire... Parce que, alors, j'ai pas été impliquée dans les discussions de GRAP, mais surtout avec les membres de la communauté ou du conseil, de, disons, présenter le prochain pas. Donc, le président ne peut pas créer les politiques, je veux dire. Oui, mais le président peut, disons, diriger un groupe de personnes avec un projet en particulier. Bien entendu, dans n'importe quel sujet, la LAC peut pousser un sujet ou la demande qu'un sujet peut être enquêté. Et bon, bien entendu, on pourrait essayer de présenter une de ces amendes en question de proposition et puis voir ce que ça donne. Oui, le conseil peut le faire, le jeune peut le faire aussi. plusieurs des groupes de travail peuvent le faire. Si on a une proposition que l'on sent qui est forte, qui va engager la participation de la communauté, on pourrait le faire. Alors, je voudrais donc poser une question plus générale en question d'application. Alors, j'ai entendu, j'ai révisé plusieurs des commentaires des utilisateurs que la RA est vue par plusieurs comme, je ne sais pas, disons une blague parce que l'ICANN n'a pas vraiment fait une application des dispositions avant. Donc, pourquoi est-ce qu'en ce moment, ça accentuer une application de ces dispositions. Je ne sais pas d'où viennent ces opinions et ce que vous pensiez. Bon, oui, si la communauté des utilisateurs va être dans la position d'où plusieurs des groupes de consommateurs vont essayer de forcer à l'ICANN à essayer d'appliquer plusieurs de dispositions. Je pense que vous ne reconnaissez pas plusieurs du travail qu'on a fait dans ces derniers mois. Nous avons déjà annoncé 3 bureaux d'enregistrement qui ont perdu leurs accréditations. Nous sommes en train de trouver. Nous avons annoncé donc un bureau d'enregistrement qui a été suspendu pour avoir appliqué une décision de GNCP. Il y a plusieurs bureaux d'enregistrement qui sont nous avons 93% de plusieurs des enregistrements dans l'univers du GNTLD qui sont en train d'être déposés et nous allons publiquement traiter les bureaux d'enregistrement qui n'ont pas suivi ce procès. Donc je pense que vous n'êtes pas en train de voir les efforts en question d'application. De la conformité et surtout en question du programme de conformité du contrat parce qu'il y en a plusieurs actions, disons, qui ne sont pas présentées en public parce que soit ils essaient de régler le problème ou ils essaient de ne plus participer en question de société. Et bien entendu, les développements récents en question de communication publique et je pense que ça aide surtout à présenter ce message. Donc ICANN, on entend toujours la même chose. ICANN n'est pas en train d'appliquer la conformité et donc on le fait toujours et toujours et toujours et on ne reconnaît pas nos efforts. Et Tim, je ne voudrais pas, disons, vous interrompre dans cela, mais... Et c'est peut-être une discussion pour un autre moment, mais les efforts qui ne sont pas visibles, qui sont difficiles de trouver, s'ils pouvaient être présentés, je veux dire, plus fréquemment ou différemment. Bon, il y a un journal mensuel qui mentionne tous les efforts et toutes les actions qui ont été faites chaque mois. Donc, nous sommes en train de faire des efforts. Alors, si on mentionne pas tous les bureaux d'enregistrement qui ont eu des plaintes contre eux, je veux dire, bon, ce serait impossible. Mais si nous faisons notre travail de sanctionner des bureaux d'enregistrement dans des étapes, je ne suis pas en train de dire qu'on ne fait pas notre travail, mais certaines des manières dans lesquelles les sociétés, disons, présente les éléments sont nouvelles et peut-être ce n'est pas disséminé ou intégré dans d'autres moyens de communication, je veux dire. Bien entendu, je ne pense pas qu'on devrait donc présenter toute l'information en question. Plusieurs personnes peut-être ne font pas cela parce que peut-être qu'ils n'ont pas toutes ces informations en question d'application de conformité. font ces books qui parlent maintenant. Information consommateur et essayer de savoir leur position des consommateurs. Pas plusieurs de consommateurs vont pas s'inscrire disons, à un journal titulé conformité du contrat, je veux dire. Donc, ça serait peut-être... il y avait un rapport public qui parlait d'un bureau d'enregistrement avec 11 000 plaintes de TWP qui n'ont pas été corrigées. Mais j'ai pas eu de nouvelles de l'ICANN en indiquant que des corrections allaient être faites ou que le bureau d'enregistrement allait être sanctionné, je veux dire. Et avant de continuer avec cela, vous êtes tous au courant de ce qui est le WTDP. Vous êtes tous au courant avec ça? Bon, c'est Cheryl qui parle. Surtout lorsque nous parlons d'une traduction et interprétation de ce terme au lieu de, disons, de, si on pouvait faire un résumé de cela, donc le DWP, c'est le système de rapport de qui est en train de participer et donc vous pouvez aller en ligne, faire une plainte et cela indique qui est le bureau d'enregistrement. Merci, Dani. Donc, la question revient à la même chose. Je veux dire, vous êtes en train de nous dire que des mesures de conformité sont déjà en place et nous voyons des rapports en place qui disent l'opposé. Je ne sais pas si l'opposé est vrai ou pas, mais les nouveaux rapports sont basés en question de leur résumé de l'information, mais pas nécessairement basés sur la réalité sous-jacente. Et bon, bien entendu, je sais que il n'y en a pas de bureaux d'enregistrement qui n'ont pas, plusieurs présentations qui n'ont pas été traitées, qui ne deviennent pas, disons, une enquête après en question de faute de conformité. Et bon, alors, lorsqu'il y a des rapports publics par les personnes qui se plaintent, nous ne sommes pas en train de voir une réponse publique de la partie de l'ICANN à ces rapports. Donc, c'est la même chose. Nous ne savons pas s'il y a des actions qui sont prises pour résoudre ces problèmes. Alors, peut-être c'est quelque chose qui doit avoir lieu avec la communication, je veux dire. Alors, sous le contrat actuel, ce que nous pouvons faire en question de conformité, ça a des limites de temps très strictes et des pas qui doivent être suivis. Donc, ces limites de temps et ces pas, on essaie de les améliorer dans les amendements qu'on vient de proposer. Ça permettrait donc plus d'action à une étape plus précédente, mais en même temps, les efforts en question de conformité sont en train d'être quittés dans plusieurs domaines avec plusieurs bureaux d'enregistrement, je veux dire. Et un des outils que nous avons en ce moment, parce que nous n'avons pas